Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Prenez et mangez-en tous. Au levain, ou de froment, de campagne, de seigle, noir ou blanc, est-il un aliment plus riche de symboles que le pain? C'est celui de l'Eucharistie et c'est celui que partagent les ouvriers à l'usine, les paysans dans les champs, au moment du casse-croûte. Le peuple est l'ami du pain. Puisqu'il est porteur de sens et qu'il est indispensable à la survie, le pain devient dès lors un enjeu pour le pouvoir. Mener le peuple à la baguette, une histoire politique du pain.
Le problème économique, quel est-il? Pour le peuple, c'est le prix du pain.
Alors on scandait du travail et du pain, on veut du travail et du pain.
Qu'il mange de la brioche.
Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin.
Grand festin sur le temps très long. Bonjour Denis Saillard.
Bonjour.
Ah bah cette histoire politique du pain, mais tout simplement cette histoire du pain nous conduit jusqu'au néolithique. On est certain que l'alimentation à base de céréales passe par le pain.
Complètement, même à la fin du paléolithique, puisque même avant qu'il y ait une sédentarisation de certaines sociétés humaines, certaines personnes ont déjà broyé des céréales sauvages, alors qu'ils étaient sans doute encore plutôt des cueilleurs-chasseurs.
On peut dire que c'est pas si dur que ça de faire du pain. C'est difficile de faire du très bon pain. Mais pour faire du pain, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients.
Non, et on pense que les premiers pains étaient plutôt des galettes plates et sans doute vraiment très très différentes au goût des pains qu'on peut trouver, d'autant plus très diversifiés aujourd'hui dans nos boulangeries. Mais les boulangers, forcément, il y a eu tout un travail, un savoir-faire progressif de génération en génération, donc sur des siècles et des siècles, qui nous a amené à la qualité d'aujourd'hui qui est assez fantastique.
Ah bah oui, mais il faut le rappeler, souligner, surtout ce grand savoir pour réussir à faire du bon pain. Faire lever du pain, ce n'est pas rien. Donc, non. Broyer des céréales, avoir de la farine, mettre de l'eau, cuire l'ensemble, ça nous donne quelque chose qui ressemble à une galette. Le levain, c'est très difficile à faire.
Oui, d'autant plus qu'il y a donc des pains levés et des pains non levés. Les premiers pains étaient non levés, en fait. Et en fait, on sait que au moins dès la Grèce antique, dès la Rome antique, le pain levé a commencé à prendre une extension assez formidable.
Denis Saillard, vous êtes historien des cultures gastronomiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. En Yvelines, pain et liberté, une histoire politique du pain que vous signez avec Colline Arnaud.
Oui.
Cette histoire politique du pain, c'est passionnant d'imaginer ici que sur une narration d'un objet, d'un aliment du quotidien, on peut avoir cet angle politique.
Oui, on peut avoir un angle politique parce que politique au sens, en fait, tout ce qui est lié à l'organisation d'une société humaine. C'est pas le sens politique un peu étroit, la droite, la gauche. Et à partir du moment où le pain et les céréales, de manière plus générale, est complètement au centre de l'alimentation d'un très très grand nombre de sociétés humaines en Europe et en dehors de l'Europe. Qu'on pense simplement à la Chine, où ce n'est pas principalement le blé mais le riz, mais c'est quand même une céréale. Et donc les céréales sont pendant très 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 longtemps au centre et même font les trois quarts à peu près de la ration alimentaire des sociétés humaines. On va dire les autorités politiques, qu'elles soient locales, régionales ou nationales ou supranationales, sont absolument obligées d'organiser le ravitaillement. Sinon, il y aura des révoltes. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le ravitaillement de la population, la domination, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de sociétés démocratiques avant le 19e siècle. Et donc, ça donne un sujet absolument immense à traiter. Nous ne sommes pas remontés pour le livre jusqu'à l'Antiquité romaine, mais tout le monde connaît la formule Panem et Circenses, du pain et des jeux. Donc, très très bien étudié par Paul Venn, par exemple. On a déjà dans les sociétés antiques une préoccupation, mais vraiment de tous les jours, pour le coup, puisque l'alimentation, il faut se nourrir quotidiennement. Préoccupation fondamentale pour, non pas les élus, mais à l'époque, mais pour ceux qui dirigeaient la masse du peuple.
Et nous pouvons nous arrêter dans l'Antiquité romaine, oui. Avec l'Eucharistie, avec Jésus, parce que le pain, c'est ce moment-là de l'histoire de l'Antiquité romaine qui a un écho à travers les siècles. Le pain, symboliquement, c'est d'une puissance totale.
Oui, très très vite, cette place dans l'alimentation quotidienne confère au pain une dimension symbolique. On pense déjà avec la civilisation qui invente l'écriture, donc dans la Mésopotamie, hein, donc bien avant encore la Grèce antique ou la Rome antique, on a déjà cette dimension symbolique qui est visible en fait dans le vocabulaire. Hein, les premiers mots, se nourrir, manger, mais au-delà de se manger, en fait vivre, est directement lié à la céréale et au pain dans la traduction du vocabulaire de tous les jours.
Oui. Voilà, c'est très important ce que vous venez de dire là, parce que c'est pas quelque chose de marginal, c'est au cœur même de la survie du quotidien.
Complètement, si on prend la racine française, donc pain, qui vient évidemment directement du latin panis, mais ce panis sans doute vient du sanskrit la racine pa, qui veut dire en fait se nourrir. Donc on est absolument au cœur de la vie des hommes, des êtres humains, depuis qu'ils ont conscience d'être des êtres humains en fait.
Faisons un petit tour en cuisine avec un grand cuisinier, c'est Raymond Oliver.
Les deux choses les plus importantes, c'est la première boisson fermentée connue, qui n'était pas le vin, et la première nourriture transformée à base de céréales, qui était le pain. Vous savez, il était normal que l'on attribuât à des dieux ces deux inventions. Alors, la bière a été la première boisson fermentée inventée. Alors, ça a été Osiris qui l'a inventée, puisque c'était normal que ce soit lui. Et c'est le dieu Pan qui a inventé le pain, n'est-ce pas ? D'ailleurs, dans la consonance, dans l'étymologie, on retrouve dans beaucoup de pays, n'est-ce pas, sauf les anglo-saxons qui veulent toujours se distinguer et qui disent « bread ». Autrement, les Espagnols disent « pano ». Pané, etc., oui. Pain. Et dans notre patois, d'ailleurs, dans notre patois Languedoc, nous disons pan, tout bêtement. Nous n'avons même pas transformé le nom du dieu.
Et vous en êtes
fiers. On l'utilise tout brut de cuvée, là, et on dit pan.
Voilà, on est en 1969 dans la bibliothèque gourmande de Raymond Oliver. Oui, il y a ici ce vocabulaire, le pain, mais c'est vrai que hop, ça sonne comme ça, le pain, mais par ces quelques lettres-là et presque une syllabe, c'est tout un univers qui s'offre à nous.
Complètement un univers qu'on peut retrouver, cette syllabe, simplement dans un terme qui m'est cher, parce que je place l'amitié très très haut hein, dans ma vie, dans le terme « compagnon ». Cum panis, avec le pain, c'est celui avec qui on partage le pain. Et cette notion de partage, dès qu'on parle de cet aliment hein, qui prend tellement de forme avec le cours du temps, eh bien, la notion de partage est absolument fondamentale aussi en politique, parce que comment est-ce qu'on va partager cette ressource ? Ça va être un des très très grands problèmes au cours des siècles.
On vient d'évoquer l'Eucharistie et ce moment lors de la messe où le pain est partagé. Eh bien, c'est aussi l'idée de communauté. C'est et le partage et la communauté. Le pain, c'est celui qui réunit l'ensemble des fidèles et plus globalement de la population, de la société.
Oui, alors dans l'Eucharistie, dont la, on va dire, la cérémonie se fixe en fait au milieu du XIIIe siècle. Hein. Il y a un article qui a été rédigé par Colline Arnaud. J'insiste puisqu'elle n'a pas pu venir ce matin, mais je lui fais un petit coucou là. Eh bien, au milieu du XIIIe siècle, le partage du pain qui symbolise, on partage en fait le corps du Christ. Hein, c'est toute la cérémonie du Corpus Christi. Il y a tout un débat théologique qui va durer assez longtemps d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle la transsubstantiation. Est-ce que vraiment le corps du Christ est dans ce pain azyme, hein, ce pain non levé, qui d'ailleurs provoquera des problèmes avec, on va dire, des dissidences religieuses qui vont être assez vite dénommées comme des hérétiques. Hein. Il y aura les cathares avant même le XIIIe siècle, et puis bien entendu la réforme protestante au XVIe siècle. Donc les religions trouveront, ces autres religions trouveront, comment dire, d'autres formes de symboliques de partage. Mais pour tous les chrétiens, parce qu'on est quand même dans une Europe très très largement chrétienne, au moins jusqu'au XVIe siècle, pas entièrement, mais très largement chrétienne, ce partage symbolique du pain dans la cérémonie de l'Eucharistie, donc qui se fixe au milieu du XIIIe siècle, et qui vient jusqu'à nos jours, hein, même si aujourd'hui la société est beaucoup plus sécularisée.
Oui, parce que ce pain-là devient le corps du Christ dans une certaine lecture, c'est-à-dire que le pain tellement porteur de symboles, est le corps de Dieu lui-même dans une société. Parce que Pain et Liberté, l'ouvrage que vous signez, Denis Saillard, avec Colline Arnaud, s'étend du Moyen-Âge au XXIe siècle, à aujourd'hui. Donc, dans une société longtemps baignée de religion, ce pain du quotidien, c'est celui qui, le dimanche ou lors de la messe, devient le corps de Dieu. Ce qui est très très fort.
C'est très très fort et quand on est historien de l'alimentation comme moi et comme Colline ou simplement spécialiste de sciences sociales et humaines autour de l'alimentation, la notion d'incorporation d'un aliment, donc quelque chose qui nous est étranger d'un point de vue anthropologique, c'est quelque chose de fondamental. Même si on ne met pas un sentiment religieux derrière, même si on ne pense pas au corps du Christ. Incorporer un corps étranger, c'est même inconsciemment, évidemment ça se joue, mais c'est même un peu dangereux, puisque par définition, on sait qu'il peut y avoir des empoisonnements. Et donc le fait qu'il y ait une assimilation au corps du Christ dans l'hostie, lui donne alors une valeur encore supérieure, évidemment, mais qui existe sans même cette notion religieuse. Donc il y a une surévaluation encore symbolique avec cette cérémonie eucharistique.
Et d'ailleurs, on peut s'arrêter un petit moment sur ce qu'est ce pain. De quel pain parle-t-on lors de la cérémonie? Vous l'avez bien dit, cette hostie, c'est un pain azyme, c'est un pain non levé. Quel est le pain qui était consommé au Moyen-Âge?
Alors le pain, alors il y avait des différents pains. Bon, là on se place évidemment dans l'Occident médiéval, on va dire le Royaume de France, et puis la ville dont pour laquelle on a le plus de renseignements est évidemment la capitale Paris. On a déjà une assez grande diversification, mais le pain principal, on va dire, c'est la grosse miche de pain, une espèce de boule d'ailleurs, et d'ailleurs celui qui va fabriquer le pain, pas tout de suite, mais va être appelé le boulanger. Puisque en fait il y a eu un changement de vocabulaire quand le prévôt de Paris, le prévôt des marchands Nicolas Boileau rédige son fameux livre des métiers en 1268, le terme officiel des boulangers en fait employé est talmelier. Qui vient en fait, le mot vient certainement du tamis qui était utilisé par les boulangers, par les talmeliers pour en fait séparer, vous savez, l'amande du blé, enfin de la céréale, du son de l'enveloppe, puisque bon, le son peut être consommé. D'ailleurs aujourd'hui il l'est de plus en plus dans les pains complets, mais plus les siècles passent en France, notamment à Paris, plus on aime manger un pain blanc. Et si on veut un pain blanc, il faut pas qu'il y ait trop de son. Donc le tamis, de toute façon, est un instrument absolument fondamental pour fabriquer le pain, en particulier à Paris. Et donc certainement le nom de talmelier vient du nom, une dérivation du mot tamis. C'est un tamisier en fait. Et le mot boulanger, lui, vient plutôt d'ailleurs de la province proche de Paris. Certainement ça vient du Picard. Et en fait, comme le pain rond, la boule ronde, la miche ronde, est de plus en plus consommé dans Paris, au fil des siècles, le mot boulanger va supplanter le terme de talmelier.
Ah d'accord, le boulanger, c'est celui qui fait des boules de pain.
Qui fait des boules, voilà. Alors vous voyez, entre l'instrument qui servait, un des instruments qui servait à faire le pain, donc le tamis, on est passé à la forme de l'aliment consommé.
Quelles céréales?
Donc c'est essentiellement des miches de pain qui sont consommées.
Et avec quelles céréales?
Alors les céréales sont extrêmement diverses. Les céréales, ça peut être du seigle, de l'avoine, mais de plus en plus, surtout donc encore une fois pour Paris, c'est le blé de froment qui va être tout de suite, enfin, qui va être de plus en plus prisé. Ça va être l'aliment noble. Alors je parle bien de Paris et de la France parce que c'est pas du tout le cas par exemple dans les pays germaniques où le pain bi, hein, qui est un pain donc de mélange de farine, ou d'autres pains, même le pain noir, seront consommés de manière tout à fait normale, y compris par les élites, alors qu'en France non, et surtout à Paris, on aura surtout le pain blanc qui sera même exigé d'une certaine manière par le peuple parisien à partir disons du 16e, 17e, 18e siècle, ce qui posera beaucoup de problèmes dans le siècle pré-révolutionnaire. On veut du pain blanc.
Avec différentes céréales, bien sûr, donc on l'entend, le froment. Est-ce qu'il est possible de mélanger ces céréales?
Oui, bien sûr. On a le pain de métail avec donc le blé et le seigle. Et puis surtout mélanger les farines, hein, que c'est absolument possible. Et là, peut-être, il faut aussi un savoir-faire, hein, parce que les farines ne se mélangent pas n'importe comment. C'est un peu comme tout produit fermenté. Hein. Raymond Oliver rappelait que la bière était fermentée, mais le pain aussi, on l'oublie un peu. Le vin aussi sont des produits fermentés. Et là, le savoir-faire, là, en l'occurrence des talmeliers et boulangers, est absolument fondamental.
Qui sont ces gens d'ailleurs? Parce que vous citez le cas de Paris. Donc à Paris, on voit comment ça peut se passer à l'intérieur d'une ville. Mais à l'extérieur de la ville, il y a, c'est quelque chose qu'on apprend souvent en étudiant le Moyen-Âge, le four banal, le four oui. du Seigneur. Là, y a-t-il un boulanger?
Alors, effectivement, on a rappelé tout à l'heure qu'un des éléments fondamentaux de la société médiévale occidentale, c'était la religion. L'autre élément fondamental à ne pas oublier, on est dans une société féodale. Donc, dans les campagnes, à distinguer des villes, dans les campagnes, théoriquement, oui, celui qui possède le four et qui le contrôle, c'est le seigneur. Qu'il soit seigneur noble, laïque, ou un seigneur ecclésiastique. Mais il faut bien quelqu'un. Vous imaginez bien que c'est pas ni l'abbé, ni le curé qui va faire le pain, ni le noble, qui théoriquement ne doit pas travailler avec ses mains. Donc il y a assez vite un boulanger qui ne porte pas ce nom-là, mais qui est en fait quelqu'un issu du milieu paysan. Qui est certainement, on lui reconnaît certains dons. De toute manière, si la personne ne fait pas du bon pain, on va assez vite le remplacer. Hein. Et le four banal n'est plus les siècles passent, moins il est contrôlé par le seigneur. Mais surtout, l'évolution qui est très très importante à souligner au Moyen-Âge, c'est l'évolution qui a lieu dans les villes où un pouvoir municipal, plutôt donc dirigé par les marchands, hein, ceux qui font le commerce, donc on va dire, si on était marxiste, le début de la classe bourgeoise, eh bien cette société urbaine va de plus en plus essayer de se libérer de la société féodale, et en particulier donc à partir du XIIIe-XIVe siècle, dans les villes italiennes, on a carrément des cités-états quasiment indépendantes et qui contrôlent la campagne, puisque bien entendu il est absolument fondamental de d'avoir la main sur la production céréalière et le contrôle des paysans. Donc ces cités-états sont à la fois, on va dire, seigneuriales et plus ou moins indépendantes des grandes principautés. Le meilleur exemple dans le livre, on la cite, c'est la cité-état de Sienne, puisqu'on a, alors là c'est absolument fabuleux, sur les murs du palais public, c'est-à-dire du palais municipal, donc du lieu central, sur cette magnifique place en conque, pour toutes celles et ceux qui ont déjà été donc en Toscane, à Sienne, on a sur les murs donc de ce palais public une fresque qui est le symbole politique, pour le coup, du contrôle de la ville sur la campagne et de tout le circuit de production et de commercialisation du pain.
Oui, parce que c'est le bon gouvernement.
Voilà.
C'est ça, hein. Le pain, c'est contrôler pas simplement l'approvisionnement des villes, c'est montrer la maîtrise que le prince peut avoir sur son territoire.
Oui, et en l'occurrence, pas exactement le prince ici, mais disons une société oligarchique. C'est-à-dire quelques dizaines de grands marchands, de bourgeois, qui, dans l'ancêtre du conseil municipal, si on peut appeler ça comme cela, eh bien, c'est les grands principes aussi. On est déjà au XIVe siècle, hein, dans une société qui est influencée par ce qu'on peut appeler le préhumanisme. Très, très inspiré des auteurs de l'Antiquité gréco-latine, c'est-à-dire non chrétien. Et donc, on est déjà en train de passer dans une autre conception de la société civile. Et là, c'est le tout début, hein. Et ça va se propager évidemment avec le véritable humanisme, on va dire, du 15e, 16e siècle, et encore plus avec le siècle des Lumières au 18e siècle.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous sommes au Fournil. Le pain est à l'honneur, et c'est la fête.
En Belgique, la ville de Grammont a célébré la fête des craquelins, qui, depuis des siècles, se déroule suivant un rite très précis. Précédés par des porteurs de paniers remplis de petits pains, les autorités communales se rendent au sommet de la colline voisine. Et là, elles jettent les petits pains à la foule, qui semble plus joyeuse qu'affamée. Cette contradiction reste conforme à la légende. Au XIVe siècle, les Grammontois assiégés avaient eu l'idée géniale de jeter leurs derniers vivres à l'ennemi. Et devant cet apparent gaspillage, l'ennemi avait levé le ciel. Sans doute avaient-ils jeté aussi leurs réserves de vin et de poisson, puisque la tradition veut que tour à tour, le doyen et le bourgmestre soient appelés à déguster ce précieux breuvage.
La fête des craquelins dans le journal des actualités françaises en 1958. Denis Saillard, oui, dans le nord de l'Europe aussi, on va trouver des municipalités qui se construisent. C'est un peu un écho à ce qu'il y a en Italie, mais dans toutes les villes, on va voir apparaître ces corporations. Pour les boulangers, là aussi, on a ce système-là de corporations.
Oui, donc les corporations, donc Paris, on sait la date exacte, en tout cas du livre des métiers, 1268, mais bien entendu avec des prémices de 11e, 12e, 13e siècle. En Angleterre, n'oublions pas que notre royaume de France, la comparaison est vraiment très, très, très pertinente avec notre voisin de l'autre côté de la Manche. Il y a vraiment beaucoup de choses communes. Et donc, pour les corporations, on a ce qu'on appelle plutôt en Angleterre, il y a tellement de termes différents à cette époque, on appelle ça plutôt les guildes, qui apparaissent quasiment au même moment. L'autre point commun avec l'Angleterre, c'est qu'à partir du début du XIIe siècle, le roi de France, comme le roi d'Angleterre, commence à s'intéresser au prix et au poids du pain. Donc, on a l'intervention du pouvoir central, qui n'est pas encore un pouvoir central, mais pas vraiment centralisé. C'est-à-dire, on sait bien que le roi de France, avant le XIIIe, XIVe siècle, est encore un roi qui est moins puissant que certains princes du royaume, comme le duc de Bourgogne ou le comte de Toulouse.
Et là, on voit apparaître la volonté de fixer le prix du pain, de contrôler le prix du pain, c'est ça. Donc, le poids, selon quelle farine utiliser, et ça doit être tel prix.
Oui, alors c'est très très complexe dans les règlements. En Angleterre, puisque j'en parlais, là, on a ce qu'on appelle le size of bread, c'est-à-dire le prix du pain en fonction du poids, qui va tout de même durer avec des évolutions, en fonction, en plus, n'oublions pas qu'il y a des disettes, des famines, on en parlera certainement dans quelques instants. Eh bien, le size of bread dure jusqu'au début du 19e siècle. Et il y aura vraiment un combat des partisans de cette taxe centrale ou municipale, puisque on a quand même des situations extrêmement différentes d'une ville à l'autre, ne serait-ce que pour des raisons climatiques. Il peut y avoir une disette, je sais pas, moi, au nord de la France et pas au centre ou au sud. Donc, il y a des situations extrêmement contrastées. Mais on voit bien quand même que le pouvoir royal, aussi bien en Angleterre qu'en France, ou dans les cités-états flamandes, comme vous le disiez, flamandes, néerlandaises, italiennes, ou même dans le royaume d'Espagne, qui est en train de se développer aussi, et surtout à partir du 15e siècle et du 16e, avec la découverte de l'Amérique, on a vraiment un contrôle politique de plus en plus prégnant sur le prix et le poids du pain. Parce qu'encore une fois, on craint beaucoup les révoltes qu'on appelle à l'époque les jacqueries, qui sont à distinguer des révoltes beaucoup plus, on va dire, non pas politiques, mais si vous voulez, avec une conscience de ce qu'il faudrait faire à la place à partir du XVIIIe siècle. Mais on a vraiment des émeutes craintes par tous les pouvoirs. Parce qu'on sait bien que dans une société, il faut arriver à un équilibre et qu'il n'est pas du tout question de démocratie, bien entendu, mais n'oublions pas non plus qu'il y a la religion, comme nous le disions, et qu'il y a le principe de charité chrétienne, et que de toute façon, les plus riches, les élites, doivent s'occuper également des gens qui manquent de pain. Alors peut-être pas de tous d'ailleurs, parce qu'il y a différentes catégories de pauvres qui ont été étudiées par quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui nous a quittés depuis quelques années, mais qui était l'historien médiéviste polonais Bronisław Geremek, qui est également connu pour son engagement politique aux côtés de Solidarność. Mais donc dans son livre sur les marginaux, il montre bien qu'il y a des marginaux, des pauvres qui sont quand même très mal considérés, parce que on pense qu'ils ne servent absolument pas au développement de la société, alors qu'il y a, on va dire, entre guillemets, des bons pauvres, et ceux-là, il faut absolument les aider. Et il y a même une concurrence, on pourrait dire, de charité entre les institutions ecclésiastiques, royales et municipales. Même si tout le monde ne croit en Dieu, il n'y a aucun problème, mais il y a beaucoup d'institutions différentes qui veulent prendre en charge les pauvres. Et évidemment, dans les villes, c'est de plus en plus les institutions municipales, bourgeoises, qui vont non pas avoir le monopole, parce qu'il y aura évidemment dans chaque paroisse l'église catholique qui s'en occupe, ou plus tard les églises protestantes, mais là on voit bien qu'il y a un enjeu quand même pour stabiliser la société à partir de différentes institutions, donc entre guillemets politiques.
Oui, parce qu'il y a la charité chrétienne, mais le roi aussi a des devoirs.
Aussi, bien sûr. Ah, le roi c'est fondamental, il y a même, on pourrait dire, ce que Rousseau appellera plus tard un contrat social, contrat complètement tacite, hein, non écrit, mais le roi, en fait, doit s'occuper de la nourriture de son peuple. S'il ne le fait pas, et c'était même avant même les royautés, le Moyen-Âge, c'était même ce qu'on demandait, ce que la plèbe romaine demandait à l'empereur, ou à la République romaine, avant le siècle d'Auguste.
C'est le bon gouvernement que l'on retrouve
c'est
à Sienne.
C'est le fameux bon gouvernement. Alors ensuite, avec évidemment, chaque gouvernement répond à des principes différents. Mais le souci de s'occuper de l'approvisionnement du peuple est vraiment au cœur des préoccupations de ceux qui dirigent. Sinon, ça se passe très très vite, très très mal. Il y a eu des révoltes quand même qui ont mis en cause le pouvoir aussi bien municipal que central.
Denis Saillard, la volonté de contrôler le pain par le prix s'accompagne aussi de contrôler le pain pour la qualité, parce qu'il ne faut pas vendre n'importe quoi non plus.
Ah oui, la qualité, c'est comment dire, quelque chose qui vient jusqu'à nous. Hein. La composition du pain, comme je vous disais tout à l'heure, anthropologiquement, comme on incorpore un aliment extérieur, il faut faire très attention à ce qui fait le pain, et les fraudes, les trafics sont évidemment très 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 contrôlés, et on demande, hein, le peuple demande vraiment à l'autorité publique de faire ce contrôle.
Contrôler le pain, mais contrôler aussi ceux qui fabriquent le pain.
Lorsqu'on s'est rendu compte que la race des mitrons, vers le XVIIe siècle, était une race volontiers frondeuse et courageuse au moment des émeutes, on a obligé les mitrons à officier dans le four, en bas, nus, entièrement nus, et avec leurs vêtements dans la boutique, de manière à ce que, s'il y avait une fronde dans la rue, les agents de la force publique accoutumés à cela allaient retirer vite les vêtements pour que le mitron ne puisse pas se mêler nu à la manifestation.
Et voilà, c'est Marcel Julien qui s'exprime en 1983. Mais dites-nous, Denis Saillard, c'est extrêmement pervers cette idée-là d'obliger les mitrons à travailler nus, comme ça ils peuvent pas sortir en cas de manifestation.
Et non. C'était certainement pas la seule raison. Le métier de boulanger, puisqu'on en parle à tous les siècles et même encore aujourd'hui, hein, est au centre également de notre ouvrage, puisque d'ailleurs la photo de couverture, hein, du livre est sur trois boulangers de la Belle Époque. Hein, c'est un cliché de vers 1900. Ce que je voulais signifier, c'est que le métier est très très difficile, en particulier à cause de la chaleur. Donc à propos de la nudité, hein, c'était certainement pas seulement pour les empêcher d'aller manifester, mais c'est un métier physiquement éprouvant. Difficulté que j'ai déjà rencontrée quand j'ai étudié pour d'autres analyses le métier de cuisinier. En fait, il y a vraiment des rapports assez évidents entre le métier de cuisinier et le métier de boulanger, métier qui se fait souvent les deux dans une espèce de sous-sol, hein, on est donc vraiment déjà sous la terre, dans des espaces qui sont très très mal aérés, et en plus le travail pour les boulangers est un travail de nuit. Pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, il y aura une revendication, mais qui n'a jamais abouti, mais qui, par exemple, surnage en 1871, pendant la Commune de Paris, pendant quelques semaines, le travail de nuit des boulangers sera interdit. Mais on voit par là que le travail physique, hein, des boulangers, en plus, on parlait tout à l'heure du levain. La question de faire des pains au levain entraîne aussi que le boulanger a très peu de périodes de repos possibles. Car au bout de 3 heures, 4 heures, il faut à nouveau s'occuper de la pâte. Donc c'est même pas seulement un travail de nuit, même pendant la journée, vous êtes obligé de travailler cette pâte, de surveiller, etc., etc. Donc un métier extrêmement éprouvant, très collectif, mais pour reprendre des époques un petit peu éloignées comme le Moyen-Âge ou l'Ancien Régime, extrêmement hiérarchisé. Et donc là, on voit le donc peut-être dans cette légende, mais on voit le contrôle sur les plus jeunes. Mais pour le livre des métiers en 1268, on voit qu'il y a une structure hyper hiérarchique. On doit d'abord rentrer, il n'y a pas du tout de liberté d'entreprendre, on doit rentrer dans le métier comme apprenti pendant 4 ans. Et on doit déjà, ensuite on est ouvrier, compagnon, et on doit faire un petit pécule, et une sorte de, avec les salaires, hein, pas le salariat capitaliste, mais le salariat de l'époque, et c'est simplement quand on pourra payer les impôts qu'on pourra ouvrir une boutique en ville, sinon on ne peut pas devenir boulanger dans une ville comme Paris ou Toulouse ou Londres. Il faut déjà avoir un niveau de fortune et déjà pas mal d'années de travail sous la férule, on pourrait dire, de maîtres qui sont parfois bienveillants, mais on connaît aussi dans les restaurants le travail de cuisinier, il peut aussi y avoir pas mal de violence.
Oui, parce que Denis Saillard, vous êtes l'auteur de Restaurants historiques de Paris de la fin de l'Ancien Régime aux années 1930, que vous avez coécrit avec Françoise H. Bissette, et ici avec Pain et Liberté, une histoire politique du pain, que vous publiez avec Colline Arnaud chez Textuel. Vous avez un support iconographique absolument remarquable. Le livre est très beau, faut le dire, c'est une très très belle édition avec beaucoup d'iconographie, parce que le pain, c'est ce lien de l'ensemble de la communauté qui intéresse les élites, qu'elles soient religieuses ou royales en l'occurrence, qui intéresse les plus populaires. C'est pour ça que l'appui iconographique est très pertinent pour étudier le pain.
Oui, et là, Colline et moi devons vraiment remercier notre éditeur, parce qu'il y a eu un travail iconographique rêvé, si vous voulez, pour des auteurs comme nous, qui écrivons quand même souvent des articles secs ou des livres sans aucune illustration. Alors que là, sur un sujet, tout sujet, si vous voulez, en histoire, devrait pouvoir être illustré. Mais là, sur le pain, ça apporte, comme on le disait, comme c'est quand même quelque chose de très symbolique, le fait d'avoir une illustration est un plus assez incroyable, d'autant que là, si on prend aussi la société, il faut absolument pouvoir illustrer et montrer l'évolution au fil des siècles des images sur le pain, de la représentation. Colline et moi travaillons en histoire culturelle, c'est l'histoire sociale des représentations, donc on est vraiment très très heureux de pouvoir offrir là au public là 250 illustrations, donc c'est magnifique. On a pu faire un choix en plus. On n'a pas été du tout contraint. Un grand choix était possible pour beaucoup de thèmes, et on a essayé de prendre, bien entendu, les images les plus parlantes.
Tous les deux, vous êtes associés au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, c'est l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. De très belles illustrations, oui, mais à la radio, les illustrations sont sonores.
Le problème économique, quel est-il ? Pour le peuple, c'est le prix du pain. Eh bien, le peuple n'a pas tellement tort, sauf qu'il ne voit pas ce problème en profondeur. Mais pour Turgot, le prix du pain, cela représente en effet tout le problème de l'économie. Il aura pendant son ministère une émeute qui marquera d'ailleurs le commencement de son déclin, qui sera l'échec de ce ministère, et qu'on a appelé la guerre des farines. Et les historiens actuels qui étudient maintenant de très près la guerre des farines, notamment en Russie soviétique ou en Angleterre, y voient tous une préface, une répétition générale de la révolution de 1789. La guerre des farines sera une émeute du pain, la révolution de 89 est une révolution du pain.
Et oui, c'est une causerie, une grande conférence d'Edgar Faure, sénateur, ancien président du Conseil, à propos de cette guerre des farines qui nous conduit au XVIIIe siècle avec Turgot. Ici, Denis Saillard, on voit cette préoccupation du pain, mais vous nous l'avez inscrite sur un temps très très long. Le pouvoir s'intéresse toujours au pain. Que se passe-t-il au XVIIIe siècle ? Comment conçoit-on la maîtrise que doit avoir le pouvoir sur le ravitaillement et les prix du pain ?
Alors déjà, ça commence très très mal pour le pouvoir royal, puisque la fin du règne de Louis XIV est marquée par des hivers extrêmement durs et deux des famines les plus catastrophiques pour le royaume de France, en 1693 et 1709. On a quand même, pour un royaume, grosso modo, hein, je cite des chiffres très très ronds, pour un peu plus de 20 millions d'habitants, on a quand même des mortalités qui atteignent 10, 15, 20% de la population, uniquement donc à cause de ces hivers, surtout le premier, mais le deuxième est un peu, la deuxième famine est un tout petit peu moins grave parce qu'on a peut-être tiré des leçons de la première. Toujours est-il qu'on voit que ce système d'approvisionnement de l'Ancien Régime, malgré les progrès techniques hein, qui sont très importants au 15e, 16e, 17e siècle, tous les moulins, les techniques, tout de même, on peut pas non plus laisser penser qu'on est dans un temps immobile hein, au point de vue technologique, même si on est dans un système pré-industriel et que les grandes évolutions seront fin 18e et 19e siècle. Et donc là, on va dire que ce siècle qui commence très très mal a eu un avantage quand même, c'est que le climat, à partir du XVIIIe siècle, commence un petit peu à se radoucir, donc les famines vont être un petit peu moins fortes, n'empêche qu'il y en a quand même de manière récurrente. Et le deuxième élément, c'est au point de vue des idées, à partir du XVIIe siècle, on a des grands penseurs, entre guillemets économistes, c'est les premiers, une pensée économique, comment est-ce qu'on peut organiser l'approvisionnement, en particulier des blés, puis plus généralement, comment est-ce qu'on peut organiser l'artisanat, mais le blé et le pain étant tellement au centre, comme on l'a dit tout à l'heure, que bon, c'est quand même l'objet central de la réflexion des premiers économistes. Hein, donc c'est l'invention de l'économie politique. Et dans ces économistes politiques, début XVIIIe siècle, on a les premiers, entre guillemets, libéraux. C'est-à-dire l'idée que pour qu'il y ait un meilleur approvisionnement en France, en Angleterre, en Europe, il faut absolument libérer les producteurs et le commerce. Donc c'est là qu'il va y avoir, et puis ces idées de liberté évidemment vont également être au niveau de d'autres thèmes, hein. Ça sera la liberté de penser, de voilà. Et donc les rois sont aussi influencés puisque Edgar Faure citait Turgot, eh bien certains grands ministres des finances, ou même carrément, on pourrait dire, les premiers ministres, même s'ils n'avaient pas ce nom-là, eh bien, certains rois vont faire appel, Louis XV et Louis XVI vont faire appel à certains ministres libéraux, mais ça va se passer très mal, allusion à la guerre des farines, où là, même le pouvoir va être accusé de spéculer sur le prix du pain, de faire le jeu de ceux qu'on appelle les accapareurs, donc ceux qui font monter le prix du pain, et donc qui finalement affament le peuple, et là, c'est très grave parce que même Louis XIV, à la fin de son règne, dans les deux famines de 1693 et 1709, n'avait jamais été soupçonné de jouer sur le prix du pain, alors que les famines du XVIIIe siècle sont moins graves. Ça fait une mortalité beaucoup moins forte. Mais là, il y a ce soupçon de complot. Il y a des théories complotistes, on pourrait dire antilibérales, parce que ces idées sont très nouvelles et que le peuple s'imagine, le peuple pense que l'hiver n'a pas été si dur que ça, ne comprend pas pourquoi les prix du pain sont multipliés par 10 ou 20 et tout de suite, on cherche des coupables, forcément. Et comme les ministres libéraux sont intervenus de manière non orthodoxe, hein, puisque l'intervention des autorités centrales depuis le Moyen-Âge était toujours à peu près la même, là c'est une autre intervention qui est « on laisse faire », eh bien ça ne passe pas, et le roi lui-même commence à être soupçonné, en tout cas ses ministres, d'être dans le camp des méchants.
Ouais, perte de confiance, il faut rappeler que si le pain a son prix qui est multiplié par 10, ça a une conséquence totale pour la vie des gens parce que le pain représente une grande partie des dépenses au quotidien.
C'est 70% ou 80% de l'alimentation des plus pauvres. Et les plus pauvres, en tout cas des plus modestes, c'est une très très grande partie de la population, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Donc là, c'est impossible, quoi. Le prix du pain, c'est vraiment... on le surveille hein, sur les fameuses mercuriales, donc les marchés tous les jours. Le prix du pain est surveillé comme le lait sur le feu.
Et alors, si les gens n'ont plus de pain, que faut-il faire?
Le peuple a faim.
L'envoi de troupes en Amérique nous coûte plus cher que nous ne l'avions estimé.
Mais une victoire anglaise serait catastrophique. Il faut montrer notre force à l'adversaire.
Nous continuerons d'aider les Américains.
Et quand on était dit à la reine que ses sujets n'avaient pas de pain, savez-vous ce qu'elle a répondu ?
Qu'ils mangent de la brioche.
C'est ridicule, jamais je ne dirai une telle chose.
Ah oui, c'est ridicule, mais c'est le film de Sofia Coppola en 2006, Marie-Antoinette, Denis Saillard. Ah oui, alors cette phrase a été répétée, utilisée. Bien sûr, ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Mais s'il est bien une phrase des origines de la Révolution française, il y a celle-là.
Il y a celle-là qui n'a sans doute pas été prononcée par Marie-Antoinette elle-même, mais sans doute correspond-elle tout de même à l'état d'esprit. On aurait dit il y a 20 ou 30 ans, hein, aux mentalités de la noblesse dans ces régimes. Cela dit, il y a une autre phrase qui est très très importante, c'est ce qui se passe le 5 octobre 1789, quand les femmes de Paris, plutôt les femmes de la Halle, mais sans doute que ce mouvement est parti même du fameux Faubourg Saint-Antoine, qui était le quartier des fabricants de meubles. En tout cas, on a quand même un événement ici essentiellement quand même féminin, même s'il n'est pas complètement féminin. Et donc, le peuple de Paris, les femmes de Paris vont chercher à Versailles, puisque depuis Louis XIV, le roi Louis XIV, on rappelle, hein, la fronde, le jeune Louis XIV, dans sa minorité, avait été effrayé par les mouvements de population dans la capitale, dans ses rues très étroites, et donc s'était fait construire un château en dehors de Paris, également pour contrôler, on le sait bien, la noblesse. Et donc, là, événement fondamental de la Révolution française, les femmes de Paris vont chercher le boulanger, la boulangère,
et le petit
Mitron.
Et
Louis XVI, Marie-Antoinette, et celui qui n'a pas régné, donc Louis XVII, hein, ce qui répète Louis XVII, le dauphin en tout cas, vont être d'une certaine manière, entre guillemets, prisonniers de la ville de Paris. Ils seront sous le contrôle de l'Assemblée constituante, mais aussi de la population qui va surveiller pendant tous les jours le prix du pain, entre autres.
On voit d'ailleurs ce moment où le pain est associé à la liberté. C'est le titre de votre ouvrage, Pain et Liberté, parce que après avoir réclamé du pain, parce qu'authentiquement on a faim, à ce moment de la Révolution, cette fin 18e siècle, et encore ensuite, il y a réclamer du pain parce que l'on a faim, mais en réclamant du pain, on réclame la liberté aussi.
Oui, ce terme de liberté, finalement, est assez polysémique, puisque même avant 1789, cette question de la liberté donc se pose. On a rappelé donc les économistes libéraux, donc fin 17e, 18e siècle, mais également donc la liberté des cités-états, la liberté des métiers, hein, par rapport à des pouvoirs concurrents comme le pouvoir religieux ou le pouvoir de l'autorité publique. Mais là, c'est encore une autre dimension. Là, les libertés, là pour le coup, politiques, la liberté de conscience, la liberté religieuse, les gens parlent maintenant, hein, le Palais Royal, Camille Desmoulins, et puis donc tous les cafés également. Hein, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé avec les restaurants, hein, le café Procope, etc., Voltaire, Rousseau, les philosophes, donc avant 89. Donc, la revendication du pain et de la liberté deviennent indissociables de manière moderne cette fois-ci. Hein. Donc c'est lié aux idées rationnelles des Lumières.
Et ce pain dès lors est omniprésent, on le sait bien, au quotidien, mais au moment des révolutions, il y a celle de 1789, mais le 19e siècle est celui des révolutions, 1830 et 1848.
La faim arrive du village, dans la ville par les faubourgs. Allez donc barrer le passage avec le bruit de vos tambours. Malgré la poudre et la mitraille, elle traverse à vol d'oiseau. Et sur la plus haute muraille, elle plante son noir drapeau. Que feront vos troupes réglées? La faim donne à ses bataillons des armes en plein champ volées, aux prés, aux fermes, aux sillons. Fourche, pelle, fausset, faucille, dans la ville au glas du tocsin, on voit jusqu'à des jeunes filles sous le fusil broyer leur sein. On n'arrête pas le murmure du pain. peuple quand il dit j'ai faim, car c'est le cri de la nature. Il faut du pain, le peuple a faim. Donnez la terre à la charrue et le pain ne manquera plus.
Il faut du pain, il faut du pain, il faut du pain, il faut du pain.
Il faut du pain, c'est le chant du pain en 1848, un chant de Pierre Dupont interprété par Christian Capezone dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Sam Bakiast avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Ce moment de Nissayar de la Révolution de 1848 est intéressant à étudier en focus et cette chanson en particulier.
Ah, c'est oui, je vous remercie de l'avoir passé parce que dans notre livre, on n'aura pas le son là pour le coup. Oui, on a des images, mais pas le son. Oui, Pierre Dupont était un des grands chansonniers, auteur de chansons républicains. L'autre qu'on pourrait mettre avec lui, évidemment, dans cette première moitié du 19e, ce serait Béranger. Mais là, on est à la Révolution de 48, avec d'ailleurs un autre slogan qui est plus violent que la chanson de Pierre Dupont, qui est « Du pain ou la mort ». On a toujours cet enjeu vital. Si on n'a pas de pain, il n'y a rien. Donc, les gens se révoltent. Et 48, comme 89, comme 1830, se déclenche pour des raisons très profondes, politiques, économiques, sociales, culturelles. Mais l'étincelle qui donne le là à la Révolution, c'est parce que le prix du pain a augmenté à cause de l'hiver précédent qui a été très dur.
Et puis 1848, c'est un moment où les penseurs politiques proposent de nouvelles voies. 1848, Karl Marx propose le manifeste du Parti communiste. Est-ce que le pain entre en considération par ceux qu'on appelle les socialistes ?
Alors Karl Marx a beaucoup étudié la société dans laquelle il vivait, en particulier donc en Allemagne, mais aussi, ne l'oublions pas, en Angleterre, où il se trouve à peu près à cette époque-là. En tout cas, il est là, par exemple, moi j'avais étudié ce qu'avait écrit Marx dans la presse socialiste sur la première grande exposition universelle qui a lieu à Londres en 1851. Donc on est dans ces eaux-là. Et Marx, en particulier, donc, a fait des textes sur ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le très très difficile métier des boulangers. Alors c'est moins important chez Marx, le commerce des blés et le métier de boulanger, que dans les penseurs du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que on a un début d'industrialisation et donc une diversification des métiers. N'empêche qu'on est quand même là, et de toute façon, pour la nourriture du peuple, on est encore dans le régime, disons, ancien, puisque c'est seulement avec les progrès de l'agriculture dans la deuxième moitié du XIXe siècle que l'Europe va se débarrasser définitivement des disettes et famines récurrentes.
Et puis nous utilisons le mot pain, mais faut bien rappeler qu'il y a tout type de pain et qu'au XIXe siècle, la consommation du pain est un marqueur social aussi. Il y a d'un côté de plus en plus blanc et de l'autre côté, celui qui reste un peu plus dur, on va dire.
Tout à fait, il y a toujours cette distinction sociale, comme aurait dit Pierre Bourdieu, de la qualité du pain, de la couleur du pain. Cela dit, il y a un développement également de la commercialisation, donc développement de ce qu'on va appeler les boulangeries, puis les boulangeries et pâtisseries, et donc aussi une diversification de l'offre, qui était déjà, pas croire qu'il y avait qu'un type de pain avant le 19e siècle, et on aura également, c'était le thème de la thèse de Colline, sur la deuxième moitié du Xe siècle, c'est-à-dire sur la notion de démocratisation de la nourriture, en particulier donc des pains et de la pâtisserie.
Oui, Colline Arnaud, sa thèse, c'est « La pâtisserie française 1870-1914, une révolution gastronomique avec ce pain, on l'a dit, tellement symbolique, ce pain tellement politique, et attention à ne pas voler un petit bout de pain. »
C'était un ignorant, mais ce n'était pas un imbécile. Sur le lit de planche des forçats, il se replia en sa conscience et réfléchit. Il se constitua tribunal. Il commença par se juger lui-même. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni, qu'on ne lui eût peut-être pas refusé ce pain s'il l'avait demandé, que, dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre soit de la pitié, soit du travail. Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire. Si d'abord, ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui, travailleur, manqué de travail. Lui, laborieux, manqué de pain. S'il n'était pas exorbitant que la société traitât ainsi, précisément, ses membres les plus mal dotés dans la répartition de biens que fait le hasard, et par conséquent, les plus dignes de ménagement. Ces questions faites et résolues, il jugea la société et la condamna.
Jean Valjean condamne la société dans Les Misérables de Victor Hugo, une adaptation radiophonique de 1962 avec Jean Villard, avec George Wilson. Magnifique Victor Hugo, Denis Saillard. Hugo, s'il fait le choix du pain pour pointer du doigt les injustices de la société, c'est qu'il synthétise aussi toute cette histoire que vous nous racontez.
Complètement, dans Les Misérables, et déjà avant qu'il devienne républicain, puisqu'on sait qu'il est venu finalement de la droite légitimiste, dans un roman qui s'appelle Claude Gueux, on a déjà la scène prototype du vol du pain qu'on aura dans Les Misérables et Jean Valjean, et qui est redoublée par une autre auteure plutôt connue pour son engagement politique révolutionnaire pendant la Commune, Louise Michel, qui, bien entendu, n'avait peut-être pas le talent de romancière de Victor Hugo, mais qui écrit quand même un grand roman feuilleton, La Misère. Quand elle revient de sa déportation de Nouvelle-Calédonie au début des années 1880, et qui va au-delà de Victor Hugo, d'une certaine manière, dans la revendication, c'est absolument fondamental dans cette histoire de diptyque pain et liberté, puisque je vous cite, hein, elle, dans La Misère, elle dit, elle écrit « Que voulez-vous qu'on fasse de miettes de pain pour la foule des déshérités ? Que voulez-vous qu'on fasse du pain sans les arts, sans la science, sans la liberté ?» C'est-à-dire qu'au-delà, hein, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on passe à une autre revendication, au-delà même de l'élément vital qui reste encore une revendication première, on a la revendication en fait politique de la liberté, et puis au-delà du bonheur social qui va être et qui est très, c'est quand même pas rien et pas un hasard que ça soit une femme qui écrive cela, hein, une femme qui va s'occuper de l'éducation des enfants plutôt, en tout cas c'est à elle, hein, aux femmes qu'on attribue ce rôle encore largement au XIXe siècle. Et donc c'est Louise Michel, et ça va être redoublé chez les ouvrières américaines au début du XXe siècle dans la fameuse grève de la ville de Lawrence, ouvrières du textile. N'oublions pas des ouvrières qui viennent d'Europe, ce sont des immigrées récentes dans le fameux mouvement que on va appeler donc « Donnez-nous du pain, mais aussi des roses »,« Bran and Roses », un mouvement qui va influencer tout le XXe siècle, jusqu'à un film de Ken Loach, hein, du Britannique Ken Loach, qui s'appelle justement « Bran and Roses ». Donc on a là une nouvelle évolution, vous voyez, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, des revendications autour du pain, qui n'est plus seulement l'élément vital. C'est toujours ça. Mais il y a autre chose, hein, c'est le bonheur social porté donc plutôt par des femmes, ce qui est quand même tout à fait remarquable.
C'est ce qu'on retrouve avec Simone qui évoque le Front Populaire.
On a été une fois, on a fait le à pied, les femmes, de Malakoff, pour aller jusqu'à l'hôtel de ville pour réclamer du pain et du travail, on voulait. Alors on scandait du travail et du pain, on veut du travail et du pain. Mais on a été coursés rue d'Alésia à Paris, par les gardes mobiles à cheval. Et puis les chevaux, vous savez, quand ça s'emballe, hein. Oui, mais on avait nos gosses à la main. Alors, ça, après, les femmes nous ont dit, on ne l'aurait pas fait. Eh bien, il fallait le faire.
Simone, 88 ans, 1996, qui évoque le Front Populaire. Oui, vous avez entendu,
c'est témoignage émouvant, oui.
Ouais, parce qu'il y a tout en fait, et on comprend cette longue histoire pain et liberté, cette association, et surtout comment dès lors la notion même d'accapareur n'est pas simplement celui qui conserve du grain, mais tout s'étend à une lecture de l'ensemble de la société.
Complètement. À partir du pain, bon, en histoire culturelle, on appelle ça un objet culturel, le pain, même s'il se mange, c'est un objet malgré tout, puisqu'il est matériel. Mais à partir d'un objet culturel, que ça soit qui est souvent lié, hein, en histoire culturelle, c'est souvent lié à la corporalité. Et donc, à partir de Ici du pain ou d'un chant, de la musique, comme le fait mon collègue et néanmoins ami Didier Francfort à Nancy, eh bien, on arrive en fait, c'est ce qui nous plaît, hein, Colline et moi, par d'une manière transversale, hein, en coupant comme ça la société, on a des révélations qu'on n'aurait pas directement dans des textes, on va dire, plus directement politiques. Là, on touche la réalité de la vie quotidienne des différents groupes sociaux, hein, parce qu'on a parlé aujourd'hui des plus pauvres, mais c'est vrai pour les classes moyennes, c'est vrai aussi pour les élites. Donc là, à partir du pain, on a vraiment une étude de plus en plus fine, je pense, grâce à l'histoire culturelle, et qui n'est donc pas seulement une histoire des mentalités, qui est aussi une histoire matérielle. Il ne faut pas couper du tout l'histoire culturelle d'une histoire sociale.
Voilà, l'histoire se coupe en tranches. Et bien, le pain, lui, traverse toutes ces tranches de l'histoire. Merci beaucoup à vous, Denis Saillard.
C'est moi qui vous remercie.
De nous avoir présenté cet ouvrage, Pain et Liberté, une histoire politique du pain du Moyen-Âge au XXIe siècle, que vous avez écrit avec Colline Arnaud, qui est, on l'a dit, et il faut le souligner, tellement éclairant sur l'ensemble de notre histoire, de manière très transversale. Merci vivement à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi la République a-t-elle longtemps combattu la langue des signes ? En 1771, Charles-Michel de l'Épée, appelé l'abbé de l'Épée, a créé la première institution éducative gratuite pour les sourds de France à Paris. L'Institut des enfants aveugles fut fondé 15 ans plus tard par Valentin Ahuy. Au cours de la Révolution française, ces deux organismes furent placés sous la protection de l'État et leurs fondateurs furent reconnus comme les dépositaires de méthodes pédagogiques considérées comme universelles. L'abbé de l'Épée mit au point le langage des signes pour les sourds et Valentin Ahuy initia une méthode de lecture au service des aveugles qui fut développée au XIXe siècle par Louis Braille pour donner l'alphabet qui porte son nom. Ce système d'écriture tactile à l'usage des personnes aveugles a été constamment perfectionné pour s'adapter aux évolutions des modes de communication, notamment depuis la révolution de l'informatique. Mais l'histoire du langage des signes a été beaucoup plus conflictuelle. Dès le XVIIIe siècle, cette méthode de communication proposée aux sourds fut contestée par les oralistes. Considérant que la langue des signes n'était pas une vraie langue, ils estimaient que les sourds devaient apprendre à parler pour pouvoir s'intégrer dans la société. Bien que l'oralisme ait fait son entrée à la faculté de médecine dès 1800, ses partisans furent marginalisés jusqu'au début de la Troisième République. Mais lors d'un fameux congrès international qui eut lieu à Milan en 1880, il fut décidé que les méthodes d'enseignement oral devaient s'imposer au détriment de la langue des signes. Ce congrès, organisé à l'initiative des oralistes, réunit plus de 255 participants. Mais seuls 3 sourds étaient présents et aucun interprète n'avait été prévu pour eux. L'argument principal qui s'imposait pour justifier l'abandon de la langue des signes était que cette langue ne pouvait exprimer des idées abstraites. En réalité, la majorité des congressistes estimaient que les sourds n'avaient pas les mêmes droits à l'éducation que les autres enfants. Voilà pourquoi leur objectif pédagogique était d'oraliser plutôt que de transmettre des connaissances. Des raisons politiques expliquent aussi ce basculement dans l'oralisme. La langue des signes subit le même sort que les langues régionales, à une époque où les États multipliaient les mesures pour uniformiser la langue nationale. Dès la rentrée d'octobre 1880, le gouvernement français s'empressa d'imposer la méthode orale dans la majorité des écoles spécialisées. Les établissements pratiquant la langue des signes furent fermés ou contraints de s'adapter et les enseignants sourds furent licenciés. Il fallut attendre près d'un siècle pour que les mouvements plaidant pour le droit à la différence impulsent ce qu'on a appelé le réveil sourd. Les revendications en faveur de la langue des signes furent prises en compte en 1991 quand le gouvernement français reconnut officiellement le droit au bilinguisme. Mais il fallut attendre la loi du 11 février 2005 pour que soit supprimée l'obligation de la méthode orale. À partir de cette date, les sourds eurent le droit de bénéficier d'une éducation en langue des signes dans n'importe quelle école de France.
Merci beaucoup Gérard Noiriel, le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Raphaël Laloum, Maïwenn Guizhou et Clémentine Ducasse. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.